Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique. Impossible de ne pas revenir sur l'assaut du Capitole le mercredi 6 janvier. Comment, a posteriori, cette attaque a-t-elle été préparée, instrumentalisée, et que va-t-elle changer à court et moyen terme dans la vie politique américaine? Hi everyone.
Nous tous ici, nous n'allons pas nous laisser voler notre élection. Nous allons descendre Pennsylvania Avenue. J'adore Pennsylvania Avenue. Et nous allons aller au Capitole.
Voilà, pour ceux qui douteraient de la responsabilité de Donald Trump dans cette triste journée du 6 janvier, c'est ce qu'il a dit juste avant les premiers assauts du Capitole et c'est évidemment sans équivoque. Alors je vais vous raconter aujourd'hui comment j'ai vécu ce moment incroyable. On ne mesure sans doute pas encore toutes les conséquences. Je vais vous parler de cette journée, mais aussi des jours précédents, notamment du dernier meeting de Donald Trump avant celui de Washington en Géorgie le lundi soir précédent. Alors, sans le savoir, il y avait déjà les prémices de ce qui allait se passer entre le moment où cette lettre est enregistrée et le moment où vous allez l'écouter. Il y aura peut-être d'autres révélations, d'autres conséquences, d'autres évolutions, mais l'essentiel, c'est de vous raconter comment j'ai vécu ces moments de l'intérieur et ce que j'ai compris ou pas compris, d'ailleurs, sur le moment. Je ne vais pas vous dire que je me doutais de ce qui allait se passer. Il n'y a rien de plus insupportable que les personnes qui vous disent « mais c'était sûr, je vous l'avais dit ». Le seul analyste qui était catégorique, je l'ai entendu sur NBC 2 jours avant, et lui, effectivement, il disait « il va se passer quelque chose de grave mercredi à Washington ». C'est toujours délicat hein, de s'avancer comme ça, surtout si les faits vous donnent tort. Mais moi, comme beaucoup, je me suis dit « oui, il va sans doute y avoir des débordements, mais un peu comme il y en a régulièrement ». À aucun moment, j'ai imaginé un tel scénario. Alors, un petit retour en arrière de 2 jours. On est à Dayton, en Géorgie, en terre trumpiste. Ce meeting était quand même annonciateur, encore plus avec le recul. Un meeting pour soutenir les candidats républicains pour les 2 postes de sénateurs qui restaient à pourvoir. On en a déjà parlé. Ce sont les démocrates qui ont gagné de justesse, qui va permettre à Joe Biden d'avoir une majorité au Sénat, ce qui est essentiel pour lui. Je vous dis que le meeting était annonciateur, car tout le monde, mais absolument tout le monde, tous les militants, quand on les interrogeait, nous disaient ceci.
Nous allons prouver ça le 6 janvier et nous allons nous battre jusqu'à le prouver.
Ce n'est pas fini, il va se passer quelque chose mercredi. C'était dans la bouche de tous les militants. Une collègue m'a même dit ce soir-là, on a l'impression qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose, mais qu'ils ne veulent pas nous le dire. Alors, effectivement, il est possible que certains savaient qu'une action allait se préparer. Et le mercredi matin, jour de l'insurrection, je prends un avion très tôt donc pour relier Atlanta à Washington. Et l'avion était rempli de partisans de Donald Trump. Et à côté de moi, il y avait un homme d'environ 35 ans. J'ai commencé à discuter un peu avec lui. Il m'a expliqué que l'épidémie de Covid, c'était une invention du gouvernement pour restreindre les libertés, que ces élections ont été truquées, volées à Donald Trump. Bon, des discours qu'on entend régulièrement. Et sur le moment, j'ai pas su définir quoi, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son attitude. Il avait des chaussures d'escalade. Il a passé la moitié du vol sous un drap blanc. Je me suis dit, c'est pour dormir, mais finalement, il n'arrêtait pas de bouger comme si il se changeait ou il s'équipait. Je vous parle de lui parce que je suis pratiquement sûr de l'avoir reconnu 2 jours plus tard sur des images que le monde entier a vues. Quand on voit des hommes escalader le mur du Capitole pour arriver au premier étage. Je l'ai vu de dos, mais il était habillé de la même façon, il avait la même carrure, et je suis quasiment persuadé que c'était lui. Donc il y avait beaucoup, c'est pour vous dire, je suis pas le seul à avoir remarqué que tous ceux qui ont pris l'avion ou le train le jour même ou les jours précédents ont vu qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais évidemment pas de cette ampleur. Alors, on en vient au meeting de Donald Trump à Washington, à 2 pas de la Maison Blanche, donc je me trouvais à l'extérieur de la pelouse. Et d'ailleurs, c'était plus intéressant à l'extérieur parce que c'est là, en voyant tous ces hommes avec des gilets pare-balles ou pare-éclats, des barres de fer, des tenues paramilitaires, des pancartes ou des drapeaux racistes. À ce moment-là, honnêtement, on pense qu'il va y avoir des affrontements entre manifestants et policiers. C'est quasi cette certitude, mais un peu comme il y en a eu au mois de mai, au mois de juin, après la mort de George Floyd, des manifestations comme on en a aussi connu en France, assez violentes pendant les lois travail ou lors des manifestations des Gilets jaunes. À aucun moment, j'imagine, qu'il va y avoir un assaut sur le Capitole. D'ailleurs, j'ai pas vu le début de l'assaut. Je fais une petite parenthèse logistique, car certains me demandent parfois de raconter un peu plus les coulisses des reportages. Là, en l'occurrence, après le meeting de Donald Trump près de la Maison Blanche, il fallait que je fasse un direct pour RTL et ensuite un direct pour M6. Alors, en radio, vous pouvez continuer à marcher, mais en télévision, surtout si vous êtes seul, il faut vous arrêter. Et souvent, vous vous éloignez un peu pour trouver du réseau quand il y a des dizaines de milliers de personnes comme ça. Donc, vous ajoutez un crochet par l'hôtel pour poser une partie du matériel, car pour couvrir des manifestations un peu tendues, il faut être un peu léger et mobile. Et donc, j'ai eu un temps de retard, on va dire, si j'ai pas vu le début de l'assaut. Donc, dès que on m'a alerté, j'ai vu qu'il y avait un assaut sur le Capitole, j'ai filé. Aucun taxi, aucune voiture, vu que tout était bloqué, donc 4 km à pied. Et en approchant de l'enceinte du Sénat et de la Chambre des représentants, là, je vois le chaos, effectivement. C'est une scène surréaliste, une scène de film, de mauvais film. Et le premier manifestant que j'aborde, c'est un oncle Sam, un homme déguisé en oncle Sam, quelqu'un de grand, qui a de l'allure, il avait l'air posé, pas tout à fait en fait.
Je suis heureux que les gens se soient réveillés. C'est nous qui donnons le pouvoir aux élus. Il est temps de le reprendre. Je pense que voter ne signifie plus rien et qu'il faut commencer à pendre certains de ces bâtards. Vous êtes français, vous vous rappelez de ce qui s'est passé à la Bastille. Vous savez ce que c'est la révolution. La période calme est terminée. On a essayé, ça n'a pas marché.
Alors ce qui était fou à ce moment-là, c'est que vous pouviez encore aller sur les marches du Capitole, en tout cas en bas de ces marches. C'était facilement une heure et demie après le début de l'assaut. La garde nationale commençait à arriver, ce qui a un peu soulagé la police du Capitole. Et là, je vois des gens, pour la plupart heureux de ce qui est en train d'arriver, qui vous expliquent que c'est leur bâtiment en fait, c'est leur Capitole, leur maison, donc ils font ce qu'ils veulent, ce qui est une conception assez étrange et particulière de la démocratie. Et il y a tous les âges, beaucoup de femmes aussi, pas la majorité, mais beaucoup de femmes, et des manifestants qui ont le sentiment de prendre leur revanche, en fait, et que tout ça est juste, malgré les dégradations, malgré, on ne sait pas encore, mais les morts. Et sur la pelouse, il y avait quand même, faut le reconnaître, quelques personnes qui désapprouvaient ce qui était en train de se passer, même si c'était pas la majorité. Par exemple, à un moment, un homme a pris un mégaphone pour parler à la foule. Il a commencé à dire que c'est une journée historique, que le peuple américain n'avait pas investi ce bâtiment depuis 200 ans et que Donald Trump les félicitait, qu'ils avaient fait du bon travail, un discours qui porte hein, évidemment à ce moment-là, avant d'ajouter que ce qui est en train d'arriver à l'intérieur, ce n'est pas bien, ce n'est pas nous, dit-il, ça ne nous ressemble pas, c'est du pillage. Et là, c'est un discours que la plupart ne voulaient pas du tout entendre. Il s'est fait huer avec des doigts d'honneur et des bras d'honneur. Car ce qui cimentait ces manifestants, c'était bien la haine à ce moment-là. Ils n'avaient pas du tout envie qu'on leur fasse la morale ou qu'on mette le moindre doute, on émette le moindre doute sur leurs actions. Alors, vous avez vu et lu hein, ce qui s'est passé pendant ce temps à l'intérieur avec ces images et ces vidéos hallucinantes, la police du Capitole débordée, d'autres policiers qui dégainent leurs armes pour protéger les membres du Congrès, le vice-président Mike Pence exfiltré, le New York Times diffusera d'ailleurs une vidéo où on entend les assaillants dire « Où est Mike Pence ? Où est Mike Pence ?» On présuppose qu'il voulait se venger de lui puisque Mike Pence finalement n'a pas cédé aux injonctions de Donald Trump et il a certifié l'élection de Joe Biden. Vous avez vu donc ces scènes de pillage perpétrées par des personnages vulgaires, des membres de l'extrême droite, des partisans de QAnon dont je vous avais parlé. C'est cette secte des partisans de Q qui serait un homme infiltré au sein de l'administration, soi-disant très bien informé. La principale thèse, c'est de dire qu'il y a en fait un vaste réseau pédophile satanique organisé par les démocrates et d'autres stars d'Hollywood, mais une secte qui porte de plus en plus. Et en fait, même mercredi soir, on n'avait qu'une image partielle de ce qui se passait. C'est après, quand on a su qu'il y avait des morts, quand on a vu les photos de d'hommes avec des menottes en plastique, par exemple, qu'on a mesuré ce qui se passait, parce que certains assaillants avaient sans doute pour but de prendre des otages, peut-être des membres du Congrès, peut-être même d'en tuer. L'analyse des photos aussi, hein, on dit beaucoup. Vous avez vu le drapeau confédéré, symbole de la période esclavagiste. Et même pendant la guerre de sécession, aucun drapeau confédéré n'avait été introduit dans le Capitole. On a vu aussi une potence avec des nœuds coulants, ce qui dit beaucoup sur la haine, des drapeaux libérer le Kraken. En fait, c'est une référence à l'avocate complotiste de Donald Trump, Sidney Powell, qui avait dit qu'elle allait libérer le Kraken. Le Kraken, dans la mythologie scandinave, c'est un monstre des mers, symbole du chaos. Alors, il y en a beaucoup, hein, des signes alarmants, inquiétants. On a vu des drapeaux montrant des intentions et des idéologies nauséabondes. Certains ont été photographiés avec des t-shirts du camp d'Auschwitz. Voilà, drôle de combattants pour la liberté, comme ils se clamaient. Alors, l'avantage, c'est qu'ils ont été suffisamment bêtes pour se mettre en scène et que le FBI commence à les arrêter les uns après les autres et ne va pas avoir trop de mal à arrêter la plupart de ces assaillants. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'était pas tous des fous furieux non plus, hein. Heureusement, il n'y a pas eu plus de 74 millions d'électeurs de Donald Trump qui ressemblent à ceux qui ont mené cette attaque. Mais qu'est-ce que cet assaut du Capitole dit? Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement? Déjà, le danger qu'a pu représenter Donald Trump, hein, pendant 4 ans, on le savait déjà. Mais là, on voit que ce sont des personnes qui ont subi comme un lavage de cerveau de la part de leur chef, qui croit mordicus tout ce qu'il dit. Et c'est pour ça que c'est assez énervant d'entendre, par exemple, un Ted Cruz, un sénateur républicain très à droite, qui a des visées sur 2024, dire « Vous pouvez pas négliger la moitié des républicains qui sont persuadés que cette élection a été truquée. » Oui, forcément, si on leur dit à longueur journée, y compris Ted Cruz, que ça a été truqué, au bout d'un moment, certains vont le croire, surtout quand on est en boucle sur les mêmes réseaux sociaux ou sur les mêmes chaînes de télévision qui répètent ce message à longueur de journée. Alors, les républicains ont vu leurs limites, hein, même tardives. Mike Pence n'a pas accédé aux demandes de Donald Trump, qui souhaitait qu'il ne certifie pas la victoire de Joe Biden. Il y a eu plusieurs démissions aussi dans l'administration et au sein du gouvernement. Certains se seraient quand même concertés pour rester afin que Donald Trump ne soit pas tout seul pendant les derniers jours de son mandat, une façon de le mettre sous surveillance et vous dire la confiance qu'il inspire ici. Il a atteint un tel degré dans la mégalomanie, le mensonge, qu'il inquiète jusque dans son propre parti. Et le lendemain, je suis retourné aux abords du Capitole pour voir ce qui se passait. Il y avait quelques manifestants encore de la veille. Certains avaient pris une nuit d'hôtel. Et beaucoup venaient de Californie ou du Midwest. Enfin, en tout cas, ils avaient fait des milliers de kilomètres. Donc, ils avaient décidé de rester. Donc, ils sont revenus aux abords du Capitole, qui cette fois était bien protégé avec des grilles de plus de 2 mètres de haut. Et certains l'a joué ancien combattant qui a expliqué comment ils sont parvenus à l'intérieur, même si on n'est pas sûr que ce soit vrai. Il y avait aussi un adepte de QAnon qui insultait les policiers parce qu'ils portaient des masques et que selon lui porter des masques c'est pas courageux. Et puis tout ça en 5 minutes, hein, pendant que j'essayais de monter un reportage, j'ai vu une femme avec ses 2 enfants qui a sorti une croix de son sac en direction du Capitole pour dire que de toute façon Jésus était avec eux. Un bel échantillon assez effrayant. Et puis il y avait Dan, un conducteur de bus à la retraite. Lui, après avoir vu les images de la veille, bien, il a pris une brouette, 2 enceintes. Il a fabriqué à la va-vite une pancarte où il a écrit « On ne peut pas se détester juste parce qu'on n'est pas d'accord ». Et il a fait le tour du Capitole en diffusant du Bob Marley. Voilà, c'est comme ça que lui, il a voulu réagir en, dit-il, diffusant un message d'amour.
C'est une honte absolue. Maintenant, on doit arrêter de se détester, parce qu'on n'est pas d'accord. Je n'ai rien vu de tel dans ma vie.
Alors, beaucoup de polémiques, hein, et beaucoup de questions après cet assaut du Capitole, notamment sur le dispositif policier, et notamment cette question qui a été posée assez rapidement par les militants antiracistes. Quand ce sont des manifestations Black Lives Matter, le dispositif n'est pas le même. Pour être plus direct, quand ce sont des Noirs, le dispositif est beaucoup plus imposant que pour des militants en grande majorité blancs pro-Trump. Alors, des questions et des réflexions, il y en a des dizaines. L'une d'elles, c'est aussi la façon dont les médias ont traité, entre guillemets, Donald Trump pendant 4 ans, le jeu qu'il a joué avec eux, et je pense que c'est lui, en fait, qui a gagné. Les médias lui étaient utiles pour se poser en victime. Et en même temps, pratiquement tous les médias aux États-Unis, en France et dans le monde entier, qui ont dénoncé ces contre-vérités, lui ont aussi offert une caisse de résonance. Il y avait quand même un côté fascinant dans le personnage. Il offrait des histoires à raconter, le fameux « c'est quand même étonnant ». Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas parler de Donald Trump, hein, c'est le président des États-Unis, mais on a tous été très prompts à réagir à la moindre de ses déclarations et surtout au moindre de ses tweets. On l'a en quelque sorte nourri et fait grandir. Alors, au moment où j'enregistre cette lettre d'Amérique, on sait que Donald Trump ne viendra pas pour l'investiture de Joe Biden. Ce dernier qui a dit « c'est plutôt bien qu'il ne vienne pas ». Pour une fois, je peux vous dire que je l'avais dit, puisque j'avais pris ce pari il y a 2 mois dans une lettre d'Amérique juste après les élections, parce que je ne voyais pas comment, avec la psychologie trumpienne ou trumpiste, je ne sais pas comment on dit, il pouvait assister et applaudir au moment où Joe Biden allait prêter serment. Alors voilà pour ses impressions sur ce moment si particulier qui a mis un coup aux Américains, déjà usés par 4 ans de mandat de Donald Trump et touchés comme tout le monde par l'épidémie de Covid. Qu'est-ce que ces jours ont changé? Peut-être la fin de Donald Trump? Ça, on verra, il aura toujours une influence, mais il risque d'être rejeté quand même à la marge comme quelqu'un d'original soutenu par des extrémistes. Bon, en tout cas, on ne va pas du jour au lendemain ne plus entendre parler de lui, c'est une certitude. On va se quitter en reprenant l'idée de Dan, se dire que les États-Unis, c'est en partie ce qui s'est passé, mais ce n'est qu'une minorité. On va donc se quitter avec ce morceau de Bob Marley. Je ne pensais pas, en commençant cette lettre, finir avec Bob Marley, mais pourquoi pas. One Love, avec notamment cette invitation. Let's stay together and feel alright. Restons ensemble et ça va aller. Thank you and goodbye. Venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et les précédents sur rtl.fr, sur Audio Now, ainsi que sur vos plateformes favorites.